Quand on voit que les gens galèrent avec les salaires qu'on a, qu'est-ce que ça va être qu'on va être à la retraite?
Ce qu'on déplore depuis des années, c'est le manque d'effectifs.
Je les suis, les filles, je trouve extraordinaire ce qu'elles font.
Ça fait comme si on envoyait des tas de petites bulles de musique un peu partout dans les cellules.
Une salle pour juste où on se pose l'hiver, au chaud.
Il faut des endroits et des structures adaptées pour récupérer les abîmés de la vie qu'on est.
À vous, les Burgiens.
Inès Lombarté, Audrey Arnandi.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Inès.
Bonjour Audrey, bonjour à tous.
Des cabines de téléconsultation s'installent dans le département. Une solution pour faire face au manque de généralistes. 20% des Burgiens n'ont pas de médecin traitant.
On en parle avec Jean de Guéry, président du département, et le docteur Lacombe, président de l'Ordre des médecins de l'Ain.
On vous emmènera visiter la cabine de téléconsultation burgienne et on parlera aussi du dispositif soutien.
Et zoom sur le rapport sur l'accès à la santé dans les milieux ruraux du géographe Emmanuel Vigneron.
Et tout de suite, c'est l'actu en bref.
Bourg, en bref.
La vaccination s'accélère dans l'Ain.
De nouveaux centres de vaccination vont ouvrir dans les semaines à venir, à Marbeau, à Villereversure notamment. Des créneaux supplémentaires sont aussi disponibles pour se faire vacciner. À Bourg ce week-end, 300 nouveaux rendez-vous ont été ouverts. Les indicateurs de la pandémie semblent repartir à la baisse dans le département.
Les inscriptions scolaires commencent aujourd'hui.
Du 15 mars au 11 juin, vous pouvez inscrire vos enfants dans leurs écoles pour la rentrée 2021. Les inscriptions se font à la mairie de Bourg, à la maison de quartier des Vennes et au pôle Amédée Mercier.
Des artistes occupent la tannerie depuis samedi soir.
Le collectif Action Culture 1 s'est installé dans la salle de concert pour demander notamment la réouverture des lieux culturels. Le directeur de la tannerie soutient la démarche. Ils étaient une dizaine à dormir sur place samedi. Mardi soir, le collectif doit se réunir pour discuter des revendications portées par les participants. Ce mouvement fait suite à l'occupation du théâtre de l'Odéon à Paris. En France, une trentaine de salles sont occupées.
C'est la fin de l'Eurocup pour la JL Bourg.
Le club de basket Bressan a perdu la semaine dernière contre Bologne. C'était son dernier match dans le top 16 de l'Eurocup. Nous avons interrogé son président, Julien Desbottes, sur le bilan de cette saison européenne.
Je pense que le bilan il est extrêmement positif. On était quand même un peu les premiers, les petits poussets de la compétition dans le sens où on n'avait jamais joué. On sait que l'Eurocup, c'est probablement la deuxième Coupe d'Europe en termes de niveau juste derrière l'Euroleague. Donc on sait que les marches aussi sont hautes à ce niveau quand on change de division, quand on va chercher l'Europe aussi. Donc le bilan il est extrêmement positif puisqu'on est sorti des phases de poule. En jouant déjà 10 matchs. On sort vraiment grandi de cette expérience. On a été élu l'équipe surprise aussi de l'Eurocup par les autres équipes à l'issue du premier tour, ce qui est quand même aussi une référence. Je suis extrêmement fier d'avoir apporté une petite pierre et contribué un petit peu à aider à ce club à franchir une ultime, encore une marche. Mais évidemment, ça appelle à y revenir le plus vite possible parce que l'énorme frustration, c'est évidemment de faire ça tout seul ou presque. Bon, vous êtes là ce soir, mais on n'est pas très nombreux. Et donc, c'est vrai qu'on n'a pas d'autre choix que de se requalifier le plus vite possible pour partager ça enfin avec notre public.
Vous pensez que cette saison, il y a encore une chance que les supporters viennent à Equinox?
Bien sûr, une chance, bien sûr. Sur combien, voilà. Donc je pense qu'on a un peu plus de chance qu'il y ait du monde à Equinox que de gagner à l'euro million quand même. Mais ça doit, la probabilité est peut-être assez proche. Je pense que c'est un indispensable aussi à l'économie de nos clubs parce qu'il faut absolument qu'on puisse tous se reprojeter sur la saison prochaine et pour ce faire, si on a joué notre dernier match fin septembre ou début octobre dans Equinox et qu'il faut attendre potentiellement un an en fait sans match, après en avoir vécu simplement un ou deux, dans l'environnement global du club, tout va être plus compliqué. Donc nous, on tient absolument avec des conditions de jauge évidemment strictes et limitées, mais par l'effet exponentielle du vaccin, peut-être aussi en responsabilisant toujours les personnes, de dire viens qui se sent aussi de venir, et ceux qui, évidemment, par leur état de santé ou parce que par prudence, tout simplement, ne souhaitent pas venir, libre à eux. Mais pour tous les autres, abonnés et partenaires et collectivités, ce serait bien quand même qu'on puisse avoir 30%, 35% pour les accueillir déjà eux, en écartant tout le monde les uns des autres, en faisant un sens de circulation et tout ce qu'on sait, quoi.
La JL Bourg continue sa saison en Jeep Elite, le championnat français. Elle est troisième du classement et a encore une vingtaine de matchs à jouer. Le prochain, c'est ce mardi 16 mars à 20h contre Pau Lac Orthez. Vous pouvez le regarder sur le site lnb.tv et c'est gratuit. Le club va aussi dire au revoir à son coach, Savo Vuzevic, qui va être remplacé à la fin de la saison. Le nom de son successeur va bientôt être communiqué.
Radio B.
Radio B.
Dans le bassin de Bourg-en-Bresse, 20% des habitants n'ont pas de médecin traitant.
Pour limiter ces déserts médicaux, l'entreprise H4D a développé des cabines de téléconsultation. Elles permettent de voir un médecin en visio. Trois cabines sont installées dans l'Ain. Et nous avons contacté Franck Bodineau, le créateur de cette cabine, pour en savoir plus. Bonjour Franck Bodineau.
Bonjour madame.
Vous êtes le président de H4D, la société qui a créé la cabine de téléconsultation qui est en activité à Bourg-en-Bresse notamment, et vous êtes aussi médecin. Alors comment vous est venue l'idée de cette cabine de téléconsultation ?
En tant que médecin, j'ai eu l'occasion et l'opportunité de travailler dans différents endroits, en France comme à l'étranger. En France, j'étais médecin dans des petits villages d'Alpes du Sud. Et là, j'ai réalisé, j'étais le seul médecin pour 5 vallées. Et je me suis dit qu'il fallait que je trouve un système pour être épaulé par mes confrères qui étaient dans des villes environnantes pour offrir un service de proximité pour mes patients qui parfois devaient faire plusieurs dizaines de kilomètres pour aller voir un médecin lorsque moi je n'étais pas disponible. Et donc l'idée a commencé réellement là, à partir d'une véritable expérience de terrain en tant que praticien.
L'idée donc d'une cabine, c'était l'idée qui vous est venue ?
Tout à fait. Alors ce que je souhaitais en fait, c'était pas vraiment une cabine, c'était recréer au plus près un espace qui ressemblait à mon cabinet médical, mais au lieu que je sois à l'intérieur du cabinet, ben j'étais à distance. Et donc ce qu'il m'importait, c'était d'abord la qualité, pouvoir moi poser mon diagnostic à partir de paramètres très qualitatifs, pouvoir être en direct avec des patients qui en avaient besoin, tout en respectant la confidentialité des échanges.
Et donc, est-ce que vous pouvez nous dire les différentes étapes pour la création de ces cabines ?
Oula, alors là, cela a pris beaucoup de temps, en fait, puisqu'on est parti d'une feuille blanche, en fait. On était, à l'époque, les seuls en Europe, même les seuls au monde. Et avec ce niveau de qualité, on continue à être les seuls. Donc d'abord, il a fallu concevoir, dessiner, puis après trouver les industriels. On s'est tout fabriqué en France. Aujourd'hui, pour créer cette cabine. Ensuite, il a fallu la certifier, c'est-à-dire obtenir tous les agréments de la part d'organismes indépendants qui nous disent, bien écoutez, chaque fois que vous prenez une mesure, la mesure sera bonne. Donc c'est très sécurisant pour le patient, mais aussi pour le médecin. Valider tous les protocoles médicaux pour former les médecins à cette consultation à distance. Être certain que les données ensuite seraient stockées dans des hébergeurs sécurisés. Et ça pour moi c'était au cœur, donc sécuriser le patient et avoir une consultation le plus proche de la réalité. Donc tout ce parcours a pris 8 ans de recherche et de développement. Et on a commencé à déployer hors pilote, c'est-à-dire en conditions réelles, il y a environ 2 ans. On a commencé vers Cluny, dans une résidence pour personnes âgées. Et par contre, le premier département à nous avoir fait confiance, ça a été le département de l'Ain pour un déploiement beaucoup plus important.
Au niveau donc des médecins qui sont en visio dans ces cabines, comment ils sont choisis ? Est-ce que c'est votre entreprise qui gère ça ? Comment ça se passe ?
D'abord, les médecins restent toujours indépendants. C'est-à-dire que c'est eux qui gèrent leurs consultations. Nous, on les aide à prendre rendez-vous, on les forme à la téléconsultation. Et évidemment, on travaille tout d'abord avec les médecins locaux du département, de la région. Et si parfois il n'y a pas assez de médecins ou de médecins disponibles, eh bien, on a un deuxième rideau médical que l'on peut activer.
En gros, vous démarchez des médecins ou ils viennent quand même à vous assez facilement ?
Aujourd'hui, on a une solution qui se déploie très bien. Donc généralement, ce sont les médecins qui nous demandent à participer à ce pool de médecine. Mais je répète, les médecins sont indépendants et donc généralement, on travaille avec des médecins locaux. Et quand il n'y en a pas assez, ce qui est souvent le cas dans les déserts médicaux, c'est bien la problématique à laquelle on doit répondre, eh bien on fait appel à des médecins qui sont un petit peu plus loin.
Certains habitants de Bourg-en-Bresse ont fait part un peu de leur préférence pour un médecin en chair et en os plutôt qu'une cabine de téléconsultation. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre ?
Qu'on est tous d'accord sur le principe, je suis moi-même médecin, mais je crois qu'il ne faut pas opposer l'un à l'autre, c'est très complémentaire. On a vu l'utilité de la télémédecine qui a fait un vrai bond en avant dans les usages depuis, hélas, cette crise du Covid, et on se rend compte, que qu'on soit patient ou qu'on soit médecin, de tous les bénéfices qu'il peut y avoir à combiner les deux pratiques, puisqu'il arrive fréquemment que notre médecin ne soit pas joignable au moment où on en a besoin. Ce qui est important, c'est que nous, on fait toujours le lien avec le médecin traitant, qui reste le médecin référent pour les patients.
Merci Franck Bodineau. Je rappelle que vous êtes le créateur de la cabine de téléconsultation H4D et vous êtes aussi médecin généraliste.
Une cabine de téléconsultation a été installée dans la maison de quartier des Veynes à Bourg-en-Bresse le 1er mars. Une dizaine de personnes l'a utilisée. Elle a été financée par le département de l'Ain, la CA3B et la ville de Bourg-en-Bresse. C'est la troisième qui s'installe dans le département et deux autres devraient ouvrir dans les mois à venir. Nous avons demandé aux passants de la maison de quartier des Veynes ce qu'ils pensaient de cette cabine de téléconsultation.
Ça peut toujours servir. On ne sait jamais si jamais mon médecin n'est pas là ou en vacances ou quoi que ce soit. On sait qu'on peut venir ici, c'est bien.
Bon, je ne sais pas si ça peut aider des gens. Il faudrait déjà qu'on consulte notre médecin, nous, et qu'il puisse nous recevoir. Hein. C'est plutôt ça qui est important, enfin pour moi. Plutôt que de venir là, il faut être en désespoir. Hein. Ça peut être un service supplémentaire. Mais encore faut-il que les gens soient bien informés. Bon, je ne savais pas, par exemple, du tout.
Si, c'est une bonne idée, oui, parce que parfois on est coincé, oui.
Vous avez un médecin traitant ici ?
En arrivant ici, j'ai mis 2 mois pour trouver un médecin traitant et j'ai dû passer par l'association je sais plus comment ça s'appelle. Bon, c'est une association en fait qui aide les gens à trouver un médecin ou des praticiens médicaux. Et c'est eux qui ont appelé le centre médical Norélan pour leur dire. En plus, je venais de les appeler. Ils m'ont dit non, on prend plus de nouveaux patients. Alors. On dit non, je vais les rappeler, ils vont vous prendre. Et voilà, et ils nous ont pris comme ça. C'est un vrai désert médical, on est obligé. Bah, je vais souvent sur Lyon pour beaucoup de choses à cause de ça.
Julien Tavernier est conseiller citoyen dans le quartier des Veynes. Son médecin traitant part à la retraite dans quelques mois. Avec d'autres habitants du quartier, il essaye de trouver une solution pour trouver un nouveau médecin.
Quand il nous a fait part de son départ prochain à la retraite, ça nous a alerté en disant, en lui posant la question, mais est-ce que vous avez un remplaçant ? Souci d'un patient envers son médecin, parce que en tant que patient, nous devons avoir un médecin traitant. Je l'ai questionné pour savoir sur quel point il pouvait transmettre son cabinet, s'il avait des personnes qui pouvaient reprendre. Et c'est là où il nous a alerté que son cabinet n'était pas forcément transmissible, car pas forcément accessible, et qui correspondait peut-être plus forcément aux conditions d'accueil actuelles.
Et donc, quelles ont été vos idées en tant que conseiller citoyen ?
Nous avons pu mettre ce sujet à l'ordre du jour des différentes séances plénières pour alerter un peu la ville en disant qu'est-ce que nous, en tant que conseiller citoyen, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, on a mis en place un petit groupe de travail dans l'idée de solliciter un peu tous les professionnels de santé pour discuter d'un projet de maison médicale. Donc ça, c'était l'idée qu'on avait au départ sur ce groupe de travail.
Et donc aujourd'hui, ça en est où ?
Pour l'instant, c'est une réflexion qui est encore un peu en cours avec éventuellement peut-être une opportunité de trouver un local qui soit plus adapté pour l'accueil de nouveaux médecins.
Il y a une cabine de téléconsultation qui s'est installée dans votre quartier des Veynes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous allez l'utiliser ? Et qu'est-ce que vous en pensez par rapport à la problématique du quartier ?
Pour moi, toutes les initiatives sont bonnes. Est-ce que je la fréquenterai ? Pour l'instant, j'en ai pas besoin parce que j'ai encore mon médecin traitant qui est là. Mais je pense que ça peut être un besoin pour certaines personnes. Après, ça ne peut être qu'un palliatif, qu'un complément par rapport à une médecine de ville. Parce qu'une cabine de télémédecine ne remplacera jamais la relation qu'on peut avoir avec son médecin traitant, notamment par rapport à un historique qui peut être plus que des soins, c'est un historique psychologique de relations, de vie de famille, où on échange plus facilement avec quelqu'un qu'on connaît depuis 10 ans qu'avec une personne qui change tous les ans en face d'une caméra.
Voilà. Nous suivons maintenant un habitant des Vennes qui vient pour la deuxième fois dans cette cabine. Aujourd'hui, c'est pour une otite. Nous l'avons suivi dans son installation et au début de son rendez-vous avec le médecin en visio.
Du coup, je vous laisse.
Eh ben, c'est parfait.
Merci. De toute façon, vous avez l'écran et tout. Et puis, bah, vous venez me chercher s'il y a un truc qui marche pas.
Il n'y a pas de souci. Merci. Okay. Bien. Donc, de toute façon, c'est assez simple. On a un petit écran tactile sur la droite. Donc, il demande de choisir la langue. Donc, j'ai choisi français. Remettre une petite impulsion pour valider.
Vérifiez attentivement les informations affichées sur le grand écran.
Voilà. Donc ça, ils expliquent bien l'absence d'un médecin traitant. Ils expliquent toutes les modalités. Hein.
Bonjour et bienvenue. Je suis là pour vous accompagner tout au long de cette séance de prise de mesure qui ne durera que quelques minutes.
Donc c'est assez bien
Merci
fait en fait.
Merci d'éteindre votre téléphone portable, de ne pas fumer et de ne pas vous alimenter. Veuillez insérer votre carte
Donc c'est vrai que c'est assez simple.
Lecteur situé face à vous.
Donc il nous donne toutes les instructions, l'emplacement pour la carte vitale.
Vous pouvez maintenant récupérer votre vitale.
Il y a juste un code ensuite normalement à taper, qu'on reçoit par SMS généralement.
Veuillez patienter pendant que le professionnel de santé se connecte.
Ah, la semaine dernière ça m'a demandé le petit code et là ça ne m'a pas demandé cette fois. Mais bon, normalement avec la carte vitale ça récupère je pense toutes les infos.
Donc là, vous savez pas qui vous allez avoir de l'autre côté de l'écran.
Je ne sais pas quel médecin exactement je vais avoir. La semaine dernière, j'ai tombé sur un médecin de Paris. Et bon, le principal, c'est de tomber sur un médecin. C'est vrai, ce qui est pratique aussi, parce que bon, surtout que la situation actuelle, beaucoup de personnes ne peuvent plus lâcher le médecin. Alors que l'avantage, justement, de cette télécabine-là, c'est qu'il n'y a pas d'avance des frais et la consultation totalement prise en charge par la Sécurité sociale. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de pratique. Et surtout avec le manque de médecins aussi qu'il y a. Je vois bien mon médecin traitant, quand je l'appelle, généralement, il faut attendre une semaine et demie pour avoir un rendez-vous. Alors que là, sur Internet, j'ai pris le rendez-vous hier soir, et il y avait de la disponibilité, il y avait déjà 4 ou 5 places ce matin. Bon, je pense que c'est passé, c'est nouveau aussi, les gens ne connaissent pas trop. Donc peut-être que voilà, peu de personnes prennent des rendez-vous, donc il y a pas mal de places encore, mais oui. Ah.
Allô, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous m'entendez bien ?
Oui, je vous entends très très bien, oui, merci.
Ok, nickel. Et la dernière fois, vous avez vu mon collègue, le docteur Delarache ?
Exactement, pour une douleur au genou.
Voilà. Et ok, alors qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui, dites-moi ?
Une otite, en fait.
Et nous laissons maintenant le patient seul avec le médecin. Secret médical oblige.
Alors, comment s'est passé ce rendez-vous ?
Assez bien, j'ai envie de dire. Bon, après, c'est comme un rendez-vous classique avec un médecin. Il nous pose des questions, donc l'utilisation des appareils. Donc, c'est vrai que c'est plutôt bien fait. Par rapport, on voit les appareils chez le médecin, là, c'est plus axé pour, pour une utilisation pour des personnes non formées, si je peux dire ça comme ça. Donc non, plutôt bien fait, oui.
C'était assez facile ?
Ouais, très simple.
Vous avez fait quoi ?
Prise de température, prise du pouls, et avec leur petite caméra, là, pour visualiser, justement, vu que c'est une otite, visualiser l'intérieur des oreilles.
Et donc comment ça s'est terminé ? Vous avez une ordonnance là pour partir ?
Eh ben alors en fait ils donnent tout le temps les mêmes documents. Donc là j'ai une ordonnance justement pour aller voir un spécialiste. Plus avec une ordonnance classique. On va dire l'ordonnance classique pour aller à la pharmacie. Et bien sûr ils délivrent tout le temps donc des tickets utilisateurs. Donc ils redonnent justement un petit récap de la prise de température, des mesures qui ont été faites. Donc c'est vrai que c'est vraiment une bonne chose.
Et pour utiliser cette cabine, les rendez-vous sont à prendre maximum 72 heures à l'avance, par internet ou par téléphone. Il suffit d'être muni de sa carte vitale. Plus d'informations sur le site téléconsultation.1.fr.
L'invité de Radio B.
Jean de Guéry, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président du département de l'Ain. Docteur Robert Lacombe, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de l'Ordre des médecins de l'Ain. Robert Lacombe, combien de médecins généralistes pour 100 000 habitants dans l'Ain ?
Théoriquement, actuellement, nous sommes à 385 médecins traitants. Donc, c'est à peu près 6,9 ou 7 médecins pour 100 000 habitants.
Et alors, est-ce que c'est un bon chiffre ?
Non, ce n'est pas un bon chiffre, dans la mesure où on devrait être plus nombreux. Le problème, c'est l'inégalité aussi qui existe. Il y a une quantité de médecins insuffisante et il y a des secteurs qui sont plus perdants que d'autres.
Et docteur Lacombe, quelle est la moyenne d'âge des médecins généralistes indinois ?
C'est autour de 55 ans, disons.
Donc ça veut dire des médecins qui se rapprochent de la retraite ?
Oui, des médecins qui se rapprochent de la retraite. Beaucoup de médecins ne prennent pas leur retraite à 65 ans, ni à 67 ans, parce que je connais des médecins qui ont plus de 70 ans, 75 ans, qui n'osent pas partir pour ne pas laisser leur patientèle. Et j'en connais beaucoup. Il n'y a pas longtemps, j'ai un médecin du secteur qui est parti à 81 ans. J'en connais d'autres qui ont plus de 80 ans, qui travaillent toujours.
Donc de plus en plus de médecins proches de la retraite, plus de départs que d'arrivées, des délais toujours plus longs pour consulter un spécialiste. Docteur Lacombe, pourquoi cette situation aujourd'hui dans l'Ain ?
Les causes sont multifactorielles. Je pense que là actuellement, ce qu'il faut voir, c'est le constat, il en manque et il faut aller devant et il faut trouver des solutions pour arriver à pallier cette carence. Il y a des solutions immédiates et puis des solutions dans le long terme, notamment quand on veut fabriquer entre guillemets des médecins, et ça ne se fait pas en une année, il faut des années et des années. Donc si vous voulez, il faut réfléchir sur le court terme et sur le long terme.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour inciter les jeunes médecins à s'installer dans notre département ?
Ce n'est pas que uniquement dans notre département.
Il faut inciter les
jeunes à rentrer dans la carrière d'études médicales. Alors là, un peu particulier parce qu'on est un département pauvre en médecins, mais il ne faut pas raisonner uniquement sur le plan local. C'est un problème qui est général. L'Ain n'est pas le mauvais mouton. Il subit un peu les conséquences d'une politique générale. Et donc, si on a peu de médecins, ce qui est vrai, et ce n'est pas uniquement un problème d'origine locale, c'est un problème général.
Il faut inciter plus de jeunes à choisir donc de devenir médecin, mais comment justement les inciter à choisir ces études ?
Les études médicales sont des études qui sont longues, qui sont difficiles. Il faudrait d'abord arriver à favoriser des études médicales qui soient claires. Et actuellement, il y a des réformes des études médicales qui ont été faites et qui se mettent en route depuis l'année dernière. Et il y a un flou un petit peu artistique qui fait que ça ne favorise pas non plus une information. C'est un sujet difficile.
Docteur Lacombe, l'Ain fait partie des départements où il y a le plus de maisons de santé pluriprofessionnelles. Qu'en pensez-vous ?
Je ne vais pas vous en dire du mal parce que moi j'en ai fait une avant de partir à la retraite et j'ai eu deux successeurs au lieu d'en avoir qu'un. J'avais eu quelqu'un qui devait me succéder qui a toujours refusé parce que justement il y avait trop de travail. Et le jour où je lui ai dit qu'on faisait une maison de santé pluriprofessionnelle à l'ANU, grâce à l'implication de la mairie aussi, parce qu'il faut impliquer tout le monde. Et donc à partir du moment où la mairie a donné du terrain, on a fait la maison de santé pluriprofessionnelle avec les médecins, les professionnels de santé. Donc ça s'est parti avec un élan positif. Et donc ça m'a permis d'avoir celle qui ne voulait pas me succéder, plus un autre qui est un autre jeune. Ça fait que maintenant, il y en a deux qui ont pris ma place.
Donc ça peut être une solution.
Oui, il n'y a pas de solution qui soit valable partout. Mais par contre, c'est sûrement un élément. Il ne faut plus laisser un médecin tout seul dans un coin. C'est valable pour beaucoup de professionnels et de professions, mais en médecine plus que d'autres.
Donc vous l'avez dit, il faut que tout le monde s'implique. Vous avez parlé donc de la mairie. Et donc le conseil départemental de l'Ain a été le premier à miser sur la cabine de téléconsultation. Chaque cabine coûte 100 000 euros. Les frais de fonctionnement coûtent près de 5 000 euros par an. Trois sont déjà installés à Montréal-la-Cluse, à Belley et à Bourg-en-Bresse. Deux autres vont ouvrir à Saint-Julien-sur-Ressouze et dans le pays de Gex.
Oui, rebonjour à toutes et à tous. Les télécabines de médecine sont un moyen, ne sont pas le moyen unique. Nous avons mis en place un plan sur quatre axes, à court terme, à moyen terme et à long terme. Et le premier axe, à court terme, ce sont bien sûr les télécabines de médecine, mais aussi l'emploi de médecins salariés. Nous avons obtenu de l'ARS, compte tenu de la déficience en matière de médecins dans l'Ain, la permission d'embaucher 4 médecins équivalents temps plein, ou 8 médecins qui sont à mi-temps. Donc nous avons lancé bien évidemment ce recrutement, il est en cours, on a déjà des réponses. Et puis bien sûr l'installation de ces 5 télécabines de médecine qui sont un moyen immédiat pour donner une réponse à l'attente des gens. Et je le dis, ces télécabines conviennent aussi bien aux personnes qui ont un médecin référent, mais à d'autres qui n'en ont pas. Il faut savoir que dans l'Ain, 15% de la population n'a plus de médecin référent. Et ce chiffre monte à 20% dans des villes comme Bourg-en-Bresse ou Oyonnax. Donc on voit bien aussi que le milieu urbain, malheureusement, est touché aussi. On parle souvent du milieu rural, mais le milieu urbain est également concerné.
Et donc vous avez parlé de ces médecins salariés, et ils ont vocation à s'installer où, ces médecins ?
Ils peuvent s'installer dans les lieux où existent déjà des médecins libéraux. Nous avons la permission de le faire. C'est une première, ça aussi, parce que jusqu'à présent, c'était interdit. Mais encore une fois, compte tenu de la situation du département de l'Ain, eh bien, nous avons obtenu de l'ARS régionale de pouvoir le faire. Voilà. Mais je remercie.
C'est pas du tout une compétence du département.
C'est pas du tout une compétence du département, bien évidemment. Heureusement d'ailleurs. Mais en tout cas, ça ne nous empêche pas de faire quelque chose. Donc, nous avons beaucoup travaillé avec le comité de pilotage sur ces deux années. Nous avons donc fait le choix d'acheter 5 télécabines, mais je remercie l'État quand même, puisqu'il nous les finance à 80% via la préfecture et l'accord de Madame la préfète. Nous avons donc l'autorisation d'embaucher des médecins salariés. Ça, c'est le court terme. Le moyen terme, c'est évidemment de mettre en place la création d'un espace pour départemental pour les professionnels de la santé. C'est-à-dire prévoir un hébergement pour les internes, mais aussi pour les médecins itinérants, centre de réunion, espace de travail, et puis service d'accompagnement, parce que c'est ce qu'ils attendent aujourd'hui, apparemment, les nouveaux médecins. Nous voulons aider, comment dirais-je, accompagner l'installation professionnelle, c'est-à-dire par l'accueil unique, des démarches diverses et variées, pour faciliter l'installation des médecins. Et puis, quatrième axe, le dernier axe, c'est surtout préparer l'avenir avec l'obtention d'un cursus, une première année de médecine à Bourg-en-Bresse. Je suis en discussion avec les universités de Lyon et Lyon 3, et j'ai bon espoir que cela arrive au bout le plus vite possible.
Docteur Lacombe, qu'est-ce que vous pensez déjà un premier mot sur les cabines de téléconsultation ?
C'est un bel outil. Ce qu'il faudrait, c'est que les gens comprennent l'intérêt de ces cabines et qu'ils comprennent la fonction, c'est-à-dire rendre service dans l'immédiat quand il y a un problème qui ne peut pas être vu. Par contre, il ne faudrait pas non plus que ça dégénère, que ce soit des gens qui aillent voir pour un oui ou pour un non la télécabine. Et justement, cette télécabine peut rendre un service technique qui permet d'avancer dans la prise en charge du patient.
Et ce que vous dites, c'est qu'il faut quand même maintenir ce contact patient-médecin face à face.
Je pense que vous avez un médecin traitant et que quand vous allez voir le médecin traitant, c'est pour pouvoir discuter, un colloque singulier. Et que moi, j'ai fait 40 ans de médecine générale. Je peux vous dire que c'est indispensable de conserver dans l'idée le contact entre le médecin et son patient.
Qu'est-ce qui est prévu du côté du département pour accompagner son utilisation ?
C'est sûr qu'il y a forcément de la communication à faire. Il n'y a que 17% des gens qui savent ce que c'est qu'une télécabine de médecine aujourd'hui, en France. Donc c'est vrai qu'il y a un grand travail, la marge de manœuvre est grande, mais en tout cas il faut bien démarrer à un moment donné. Et je suis persuadé que ces chiffres vont aller en augmentation, les chiffres de fréquentation bien évidemment, et que derrière ça ne remplacera jamais un médecin humain. Mais vous avez quand même le contact, puisqu'en face de vous, vous aurez un vrai médecin sur écran qui vous guide et qui vous consulte. Donc ça, c'est important également. Voilà. Mais en tout cas, c'est un complément qui répond à un besoin urgent.
Radio B.
Radio B.
Depuis début mars, les pharmaciens, infirmiers et sages-femmes sont autorisés à vacciner contre le Covid. Sont toujours prioritaires les 50-74 ans avec comorbidité comme une insuffisance cardiaque, les plus de 75 ans et les professionnels de santé et du médico-social. Jean de Guéret, à partir de ce jeudi, le 18 mars, le département organise une campagne de vaccination itinérante et décentralisée. Qu'est-ce qui est prévu ?
Nous nous dirigeons vers un public de plus de 75 ans qui est déjà inscrit au département dans nos services APA, l'aide à l'allocation à la perte d'autonomie, et également à la PCH. Pour les personnes handicapées. Donc ce public, nous le connaissons déjà, il représente environ un peu plus de 5000 personnes dans le département de l'Ain. Nous allons nous-mêmes les contacter et leur proposer un et deux rendez-vous pour la vaccination. À quel endroit vous allez me demander ? Eh bien, premièrement, dans les 7 centres de vaccination qui existent déjà, à condition d'habiter dans un rayon de 20 minutes maximum. Et nous allons même leur proposer de les transporter pour les personnes qui n'ont pas de mobilité. Deuxièmement, nous allons, pour les personnes qui habitent à plus de 20 minutes d'un centre de vaccination, créer 11 nouveaux centres de vaccination avec l'aide des communes. Et nous allons agir de la même façon, aller chercher les gens à leur domicile, les emmener dans ces centres de vaccination, les ramener. Ou alors ils viendront de leur propre gré s'ils peuvent se mouvoir eux-mêmes. Et puis troisième chose, pour les personnes les plus fragiles, qui ne peuvent pas se déplacer, nous irons les vacciner chez elles, avec un médecin et une infirmière. Bien évidemment, le département payera ses transports. Mais ça sera gratuit pour le bénéficiaire.
Docteur Lacombe, quel retour des médecins généralistes de l'Ain sur la campagne de vaccination ?
On a actuellement pas loin de 50 médecins retraités qui se sont impliqués, qui sont proposés pour venir vacciner. Donc il ne faut pas remettre en cause le principe du vaccin. Par contre, ce qui est vrai, c'est que c'est difficile. Vous avez vu le nombre des doses qui sont distribuées avec des dotations qui sont hebdomadaires. Ça entraîne quelquefois un petit peu des tiraillements. Mon souhait personnel, c'est qu'il ne faut pas, à l'occasion de cette vaccination, mettre les professionnels de santé les uns opposés aux autres. Et je suis navré quand j'entends des antagonismes un petit peu entre les pharmaciens et les médecins. Il ne faut pas créer ces situations-là. On vit chacun dans nos villages, dans nos villes, à côté des pharmaciens. On est souvent ensemble. Il faut que chacun s'y mette, chacun ensemble, mais pas les uns contre les autres. Et il faut vacciner sans arrière-pensée, en connaissant, comme tout médecin doit le faire. On ne vaccine pas quand il y a une contre-indication. C'est pour ça qu'il y a un interrogatoire avant la vaccination. Il faut faire les choses comme il faut, mais il ne faut pas remettre en cause le principe de la vaccination.
Docteur Lacombe, merci.
J'en prie.
Vous êtes le président de l'Ordre des médecins de l'Ain. Jean de Guéry, merci. Vous êtes le président du département de l'Ain.
Merci à vous.
Merci bien.
À vous, les Burgiens, sur Radio B 90 FM.
Une association aide aussi les patients à trouver un médecin traitant dans notre département.
Ville aux Pins, c'est son nom. Elle porte le dispositif soutien. Le docteur Pénétra en est le président. Il permet notamment de trouver un médecin traitant ou spécialisé aux patients quand ils n'y arrivent pas.
C'était pas notre mission de départ, hein, de la recherche de médecins traitants, mais comme on s'adresse à des personnes qui ont beaucoup de problèmes et qui ont besoin d'avoir une prise en charge, il y a toujours le besoin d'un médecin traitant. Et donc, notamment pour vraiment agir de façon efficace, on établit ce qu'on appelle un plan personnalisé de soins qui permet donc de mettre en place ce qu'il faut. Et ça ne peut se faire qu'en lien avec le médecin traitant, qui est le pivot du système de soins. Donc nous, très vite, on a été confrontés à rechercher des médecins traitants pour notre association. Et de façon plus générale, après, on nous a dit, écoutez, vous qui avez cette connaissance, cette expertise, on va vous solliciter. Hein, ce qui fait qu'on a énormément eu de sollicitations. Alors, il est évident qu'il y a tellement de demandes qu'on ne peut pas trouver des solutions dans 100% des cas, mais on a quand même un taux de réussite qui est quand même notable, même si c'est de plus en plus difficile. Et donc, en fait, nos assistantes de coordination font des demandes par le biais d'un système qui s'appelle SARA, qui permet, avec une liste de médecins, de leur exposer sans nommer les personnes, mais exposer les situations et demandant à des médecins s'ils sont d'accord pour... Voilà. Ou on va solliciter directement, téléphoniquement aussi, les médecins, ça peut nous arriver.
Vous faites un peu du lobbying, en fait.
Oui, un petit peu, oui, c'est ça, oui. En fait, on se rend compte que pour les médecins, si on leur expose bien les choses, il y a un certain nombre qui vont être sensibles soit à la détresse, soit aux difficultés des gens. Mais il faut reconnaître qu'on est dans un contexte démographique extrêmement grave. Oui, parce que les chiffres, quand on regarde sur les sites officiels, un médecin généraliste sur Bourg doit suivre à peu près 2000 patients, ce qui est nettement supérieur à la situation française.
C'était le docteur Pénétra, président de l'association Ville aux Pins.
Le manque de médecins, ça ne concerne pas que l'Ain, Inès.
L'Association des maires ruraux de France alerte souvent sur le manque de praticiens en zone rurale. Emmanuel Vigneron est géographe et professeur d'aménagement sanitaire à l'Université de Montpellier. L'Association des maires ruraux de France lui a demandé de réaliser un rapport sorti début février sur l'accès à la santé dans les milieux ruraux. Et l'Ain fait partie de ces territoires avec moins de 25% de densité médicale par rapport à la moyenne française.
Dans ce rapport, vous dites notamment que le nombre de médecins exerçant en France au début de 2021 n'a jamais été aussi élevé. Alors pourquoi manque-t-on de médecins dans certains territoires ?
Eh ben, on manque de médecins parce que les médecins se concentrent. Ils sont de plus en plus concentrés dans les grandes villes, et ce, en raison ou à la faveur de la spécialisation de leur profession. Le nombre de médecins n'a jamais été aussi grand. Mais le nombre de médecins généralistes, ceux qui sont les plus présents dans le monde rural, a tendance à baisser, notamment depuis quelques années maintenant, et le nombre de spécialistes a tendance à augmenter. Pour éviter d'ailleurs sans doute de se marcher sur les pieds, dans les grandes villes, bah, les médecins ont répondu historiquement par l'hyperspécialisation qui permet d'éviter la concurrence. Et c'est une des raisons, évidemment, de cette concentration des médecins dans les plus grandes villes. Les jeunes médecins d'aujourd'hui, bah, pour beaucoup, s'ils ont fait, par exemple, on est dans l'Ain, s'ils ont fait leur étude à Lyon ou à Dijon, ben, ont vécu enfant à Lyon ou à Dijon, et leurs parents déjà, et leurs grands-parents souvent. Donc le monde rural, la Bresse, ça devient quand même un endroit lointain. C'est pas un monde où on imagine pouvoir faire sa vie. Donc il y a plein de raisons qui font que les médecins ne vont pas s'installer à la campagne.
Et que peut-on dire au niveau de l'évolution de l'accès aux soins dans les zones rurales ces dernières années ?
Ah ben, elle est très mauvaise, cette évolution. C'est pour ça aussi que j'ai refait cette étude. Vous savez, dans ma vie, ça fait 30 ans ou 35 ans que j'étudie ces questions et que année après année, je les retrace. D'année en année, on voit les déserts médicaux s'aggraver à travers la France.
Cette démographie médicale, comment elle pourrait évoluer dans les années à venir ?
Il faut du temps pour former des médecins, entre 7 et 11 ans, 12 ans, selon les spécialités. Pendant longtemps encore, la démographie médicale ira en diminuant pour ce qui est des généralistes. Voilà, pendant 10 ans, 15 ans, on aura moins de médecins généralistes.
Dans son rapport, Emmanuel Vigneron indique aussi que plus de la moitié des médecins ont plus de 55 ans. Les départs à la retraite vont donc être nombreux dans les années à venir. La problématique de la densité médicale va rester un enjeu pour les zones rurales.
À vous les Burgiens, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute.
Et on se retrouve lundi prochain à 18h pour un numéro en grande partie consacré à la semaine de la presse et des médias dans l'école. Bonne semaine sur nos ondes.
Quand on voit que les gens galèrent avec les salaires qu'on a, qu'est-ce que ça va être qu'on va être à la retraite ?
Ce qu'on déplore depuis des années, c'est le manque d'effectifs.
Je les suis, les filles, je trouve extraordinaire ce qu'elles font.
Ça fait comme si on envoyait des tas de petites bulles de musique un peu partout dans les cellules.
Une salle pour juste où on se pose l'hiver, au chaud.
Il faut des endroits et des structures adaptées pour récupérer ben, les abîmés de la vie qu'on est.
À vous, les Burgiens.
Inès Lombarté, Audrey Arnondi.